Radio de la Paix, il est 7h.
Le journal de 7h.
Paul Bénédicte Boulou.
Il est 7h, bienvenue dans votre journal. Bonjour à tous, voici les titres de ce mardi 9 avril. L'église orthodoxe de Côte d'Ivoire offre à 200 réfugiés vivant dans le pays des vivres et non vivres. La cérémonie a eu lieu hier lundi 8 avril à la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. La mauvaise santé des entreprises de presse face aux coûts élevés de l'impression constatés ces derniers mois inquiète le président du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, JEPSI. Pour lui, si rien n'est fait, les entreprises seront obligées de réduire leur personnel. À l'initiative de l'Organisation Ouest-Africaine pour la Santé de la CDAO, les parlements des jeunes de la CDAO viennent de participer à un séminaire de renforcement de leurs capacités sur la thématique du dividende démographique à Cotonou au Bénin. On en parle dans cette édition. En page internationale au Soudan, les manifestants maintiennent la pression. Rassemblés depuis 3 jours devant le QG de l'armée hier lundi 8 avril, ils demandaient aux militaires des négociations directes en vue de la formation d'un gouvernement de transition pour remplacer le président Omar el-Béchir. Et puis juste après l'actualité internationale et la revue de titres, des titres de presse de vos quotidiens, présentée par Souleymane Katie Ouattara, nous aurons en fin d'édition comme invité de la rédaction Philippe Kouamé, directeur de la confiance numérique et de la sécurité des réseaux et systèmes d'information à l'ARTCI. Il répondra aux questions de Jean-Claude Comé. Voilà pour l'essentiel. Nous le disions en titre, l'église orthodoxe de Côte d'Ivoire a remis hier lundi 8 avril les vivres et non vivres à 200 réfugiés vivant dans le pays. La cérémonie a eu lieu à la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides à Abidjan. Témoin pour la Radio de la Paix, Jean-Claude Mabéa.
Le sens de ce don avec l'archevêque Narkissos de l'église orthodoxe de Côte d'Ivoire.
Orthodox Church, we believe that...
Nous sommes de l'église orthodoxe de la Côte d'Ivoire et notre mission, c'est d'aider tous les nécessaires. Et que ce soit ceux de l'Église ou la population, ainsi que la Côte d'Ivoire tout entière. De nos jours, les pays sont devenus comme des villages planétaires et nous sommes obligés de s'entraider, de s'aider, de se donner la main et aider surtout ceux qui sont dans le besoin.
Cet acte a été salué par le représentant du ICR en Côte d'Ivoire, Mohamed Askia Touré.
Quelle que soit la quantité, c'est le geste symbolique en fait qui appelle la générosité de tout le monde, qui réveille en chacun de nous le fait de vouloir donner, de vouloir servir l'autre. Et en cela, je tiens à le remercier au nom du HR en Côte d'Ivoire.
Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a exprimé à son tour la reconnaissance du gouvernement aux donateurs. Daouda Diabaté.
Je voudrais saisir cette occasion pour traduire toute la reconnaissance du gouvernement ivoirien et du peuple ivoirien à l'église orthodoxe de Côte d'Ivoire pour cet acte de grande générosité sans égal en faveur de ces hommes et ces femmes à qui notre pays a accordé sa protection.
Les impressions de quelques bénéficiaires.
Nyonzima Marguerite du Burundi, ça me fait plaisir. S'il pouvait le faire chaque mois, ça va nous arranger.
Mbayabou Chitenge Tony, c'est une joie immense. Ce geste humanitaire nous va droit au cœur.
Ce sont au total 200 réfugiés qui ont bénéficié de ce don.
Comme annoncé à l'entame de cette édition JEPSI, si rien n'est fait, les entreprises vont réduire le personnel. Ce cri de cœur est du président du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire qui observe la mauvaise santé des entreprises de presse face aux coûts élevés de l'impression constatés ces derniers mois. Le président du JEPSI lance donc un appel à l'aide auprès de l'État ivoirien alors qu'à l'origine de cette augmentation, c'est le coût du papier qui relève d'une question environnementale, selon Patrice Yao, président du JEPSI.
Les coûts des journaux qui passent de 15 à 25 francs en fonction des quotidiens et des hebdomadaires, ça va provoquer au niveau de nos différentes entreprises des coûts supplémentaires mensuels de 800 à 1 million d'euros. C'est déjà une situation difficile pour nos différentes entreprises par rapport à la situation des mouvements des journaux et aussi au manque d'un certain nombre de choses. Et je pense que ce sont des situations qui sont extrêmement difficiles. Nous appelons donc l'État au secours et si rien n'est fait, bon, je pense que déjà la situation que les entreprises de presse vivent collective, on pourrait se retrouver ou bien à la réduction du personnel ou alors purement et simplement à la fermeture des différentes entreprises.
Qu'est-ce qui est à l'origine de cette augmentation des intrants pour l'impression?
Le coût du papier au niveau international à cause donc des questions d'environnement, le bois qu'il ne faut plus couper parce que bon écoute, il faut sauver un certain nombre d'éléments. Le coût du papier a flambé et depuis donc des mois, les imprimeries et les éditeurs de presse sont en pleine discussion. Mais je pense que les imprimeries ne pouvant plus supporter les coûts qui ont été imposés donc au niveau international, il faut bien que ces coûts-là soient répercutés sur les éditeurs.
Patrice Yao, président du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI, joint par Bonnie Cadier. La salle de conférence de la présidence de l'université Palanfo-Gon-Coulibaly de Korogo a servi de cadre pour la remise de documents aux différentes structures de la dite institution académique. Il s'agit des guides et plaquettes destinées à améliorer la qualité des enseignements qui constituent un aspect essentiel de la réforme à licence, master, doctorat. Plus de précisions dans ce compte-rendu de Marcel Bouny.
La remise de ces guides et plaquettes intervient dans un contexte défini par le professeur Coulibaly Adama, président de l'université Palanfo-Gon-Coulibaly de Korogo.
Dans le cadre du CDD, il existe un volet qui est le volet appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire, en abrégé AMRUJ Côte d'Ivoire, dont l'une des dimensions concerne la conception et l'élaboration de supports.
Et quels sont ces supports?
Le guide LMD qui est destiné aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs afin qu'ils s'approprient ce concept LMD et cette réforme LMD. Le deuxième type de support, ce sont les plaquettes LMD. Ces plaquettes LMD essaient donc de donner des informations aux étudiants sur ce qu'est cette réforme.
La répartition de ces documents se fera sur la base de ces chiffres communiqués par le professeur Diomande Draman, vice-président de l'université Palanfo-Gon-Coulibaly de Korogo.
En ce qui concerne l'université Palanfo-Gon-Coulibaly, nous avons réceptionné 500 guides pédagogiques LMD à l'intention des enseignants-chercheurs, des chercheurs et du personnel administratif et technique et 10 500 plaquettes LMD à l'intention des étudiants.
Les enseignants sont donc invités à s'approprier ces manuels essentiels pour réussir la mise en œuvre du système licence master doctorat. Marcel Bonny, Korogo, Radio de la Paix.
Les communicateurs originaires du district d'Uzanzan veulent prendre leur part dans le développement de leur région. Ils l'ont exprimé le week-end dernier au sortir d'une assemblée générale ordinaire tenue à Bassam. À cette occasion et dans le cadre de sa communication, le directeur des moyens généraux du Trésor public et parrain de la cérémonie a exhorté les fils et filles de ce district au changement des mentalités pour pouvoir embarquer dans le train de l'émergence. On écoute Noufé Michel.
Le Rekosa face aux défis du développement et de la cohésion sociale du Zanzan. Le thème en lui-même est parlant. Et le grand district du Zanzan, à savoir les régions du Gomtougo et du Boukadi, ont un réel besoin de communication. Seule la communication peut nous permettre d'aboutir au changement de comportement que nous voulons tous. Le Zanzan a longtemps souffert des incompréhensions et du manque de communication entre ses filles et ses fils. Et c'est à nous de faire du Zanzan ce que nous voulons qu'il soit, une région de paix, une région où ses filles et fils se retrouvent pour parler, pour communier, et surtout une région où le développement permet à chacun de nous de pouvoir se faire une place. Et nous devons accompagner les plus hautes autorités de ce pays sur la voie qu'elles ont choisie, faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Notre souhait, c'est que cette émergence ne se fasse pas sans le Zanzan. Bien au contraire, nous voulons que le Zanzan soit le porte-flambeau de cette émergence. Cela ne peut se faire que si nous sommes dans de bonnes dispositions d'esprit, que si nous changeons de mentalité et que si nous prenons la décision de devenir, comme le disent nos autorités, l'Ivoirien nouveau.
Nous fait Michel, le directeur des moyens généraux du Trésor public. À l'initiative de l'Organisation Ouest Africaine pour la Santé de la CEDEAO, les parlements des jeunes de la CEDEAO viennent de participer à un séminaire de renforcement de leurs capacités sur la thématique du dividende démographique à Cotonou au Bénin. Va Yao Josué, le président du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, revient sur l'opportunité de cette formation au micro de Radir Razak Wilfried.
Qui parle de capture de dividendes démographiques, parle d'investissement dans l'éducation, dans l'économie, la gouvernance également, et donc tous ces facteurs facteurs sont d'actualité et d'enjeu pour un État en vitalité de développement tel la Côte d'Ivoire.
Vous sortez de cette rencontre, qu'est-ce que les jeunes de la Côte d'Ivoire doivent pouvoir tirer comme profit?
Il faut savoir que à l'occasion de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été faites à l'attention de la CDAO. Elle a mené les assemblées nationales des pays membres de la CDAO à faire la promotion du dividende démographique, à impliquer véritablement les jeunes parlementaires dans la mise en œuvre du dividende démographique. Il faut véritablement impliquer les jeunes. Une autre recommandation a été faite, c'est de pouvoir demander au ministère de la Santé des États membres d'avoir comme acteur d'exécution du projet des jeunes parlementaires. Parce que les jeunes constituent les bras valides dans un État. Et d'abord, nous allons renforcer les capacités des jeunes sur l'étendue du territoire national. Nous allons mener des campagnes de sensibilisation sur la planification familiale et aussi amener l'État de Côte d'Ivoire à créer plus de richesses, d'emplois et aussi des revenus pour permettre à ces familles-là d'être un peu plus stables.
Vahiao Josué, le président du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. En page internationale, hors de nos frontières au Soudan, les manifestants maintiennent la pression. Rassemblés depuis 3 jours devant le QG de l'armée, hier lundi 8 avril, ils demandaient aux militaires des négociations directes en vue de la formation d'un nouveau gouvernement ou d'un gouvernement de transition pour remplacer le président Omar El-Béchir. La position récente de l'armée semble les encourager. Dans la soirée d'hier lundi, le ministre de la Défense a indiqué que les forces armées soudanaises comprennent les motifs des manifestations et ne sont pas contre les demandes et les aspirations des citoyens, mais elles ne laisseront pas le pays sombrer dans le chaos. Et puis l'armée malienne et la force française Barkhane ont neutralisé 15 djihadistes présumés le dimanche 7 avril dans le centre du Mali, près de la frontière avec le Burkina, selon l'AFP. Par ailleurs, dans la même région à Dioura, où une attaque djihadiste le 17 mars avait fait 26 morts parmi les militaires maliens, au moins un civil a été tué et plusieurs ont été blessés hier lundi par des tirs des soldats après une explosion accidentelle qui a fait croire à un nouvel attentat. L'armée malienne n'a mentionné ni la localisation de l'opération ni la participation de Barkhane. Souleymane Katier Ouattara vient de nous rejoindre pour la revue des titres des quotidiens de ce mardi. Bonjour Katier.
Bonjour Bénédicte.
La saison des pluies qui s'annonce suscite quelques inquiétudes et les journaux en parlent ce mardi.
Oui, c'est à la une de Fraternité Matin qui parle de grandes pluies annoncées et qui fait un focus sur le cas récurrent de la rivière à Palmeraie. Avec ce titre, les populations entrent angoisse et espoir. Encore plus alarmiste, le temps annonce Abidjan menacé par des pluies diluviennes, un message d'alerte lancé aux populations. Dans la commune de Yopougon, les autorités semblent avoir décidé d'anticiper. On peut lire à la une de Soir Info 500 familles déguerpies hier à Yopougon. Mais l'actualité est aussi et surtout politique. On a d'abord le RHDP qui vient de former son conseil politique. Le rassemblement qui écrit à sa une que Ouattara imprime la dynamique, parle d'une équipe d'hommes de conviction et cite les propos du professeur Dibi Kouadio qui s'exprime en ces termes. Le RHDP en marche vers la patrie de la vraie fraternité. Le Monde, analysant la composition de ce conseil, parle d'une belle représentation nationale pour l'expression « Ouattara joue la carte de la géopolitique ». Comme ou fouette, le corps à corps peut commencer, écrit-il. Du côté de l'Inter, on relève que Ouattara ignore Aoussou et Dibi Charles. Dans la vie des partis politiques, on a également la célébration des 73 ans du PDCI-RDA. Le nouveau réveil marque l'événement avec ce titre. 73 ans de conviction, de solidarité et de résistance. Puis faisant référence à un article de Jeune Afrique écrit « Le PDCI peut-il ramener la coupe à la maison ?» Le Patriote voit cet anniversaire sous un angle différent et titre « Bédier va célébrer une coquille vide ». Voici comment et pourquoi. Du côté du Front populaire ivoirien, la rencontre manquée entre Affine Guessant et Laurent Gbagbo n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Et on y va de révélation en révélation. À la une de l'Inter, on lit que Assoua Adou donne sa version des faits. Notre voix originale promet enfin toute la vérité quand notre voix, prenant le contre-pied de son confrère, affiche Agnès Monet contredit Assoua Adou. Et dans la foulée, Soir Info annonce un autre rendez-vous, cette fois entre le PDCI et Laurent Gbagbo. On peut lire à sa une, avant la rencontre annoncée avec l'ex-chef de l'État en Belgique, ce que Guy Kahuet et le PDCI disent d'un retour de Gbagbo. Le Sénat est au complet avec la nomination des 33 derniers membres de la Chambre mercredi dernier par le chef de l'État. Fraternité Matin et Le Patriote nous apprennent que les 33 nouveaux membres ont été reçus par le président de l'institution, Aoussou Jeannot. Le rassemblement, citant les propos de ce dernier, affiche « Plus de temps à perdre que le travail commence ». Et pour finir, plusieurs journaux se font l'écho de la détresse actuelle des éditeurs de presse avec cette menace de Patrice Yao, le président du GEPSI. Les entreprises de presse réduiront le personnel si notre voix plus explicite pointe l'absence de subvention à l'impression et titre à bout de souffle. Les patrons des journaux interpellent l'État.
Merci, c'était la revue de presse des titres présentée par Souleymane Katia-Ouattara que vous retrouverez à 8h. Lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Les plaintes contre les crimes numériques ont augmenté de 58% depuis 2011, ce qui équivaut à 2860 plaintes pour un préjudice de 5 milliards de nos francs. C'est ce qui ressort du rapport de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité mise en place par l'autorité de régulation des technologies de l'information et de la communication et de la police nationale. Et pour parler du contenu de ce rapport, Jean-Claude Comé est en ligne avec Kwame Philippe, le directeur de la confiance numérique, de la sécurité des réseaux et systèmes d'information à l'ARTCI. Il est l'invité de la rédaction de ce jour.
Monsieur Kwame Philippe, bonjour.
Bonjour, monsieur.
L'ARTCI est engagée dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Et dans ce cadre, avec les autorités policières, vous avez une plateforme qui récemment a fait son bilan. Que devons-nous retenir des actions menées dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité?
Effectivement, l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications, TIC, a signé une convention depuis 2011 avec la Direction générale de la police nationale de Côte d'Ivoire, qui crée la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, en abrégé PLCC. Donc depuis 2011, on a commencé une lutte conjointe contre la cybercriminalité. Ce qu'on peut retenir, c'est que aujourd'hui, les chiffres au niveau de la cybercriminalité sont en baisse. Mais en même temps, les déclarations d'actes de cybercriminalité sont en hausse au niveau de la PLCC. Pour la simple et bonne raison que les populations ont pris confiance en la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité et donc sont beaucoup plus aptes à aller dénoncer les actes de cybercriminalité dont elles sont victimes.
Il y a une certaine baisse en termes donc d'actes délictueux liés à l'utilisation des télécoms, mais vous avez parlé aussi d'une hausse des plaintes.
Selon les rapports, on parle d'une augmentation d'à peu près 58% par rapport à 2011. Et comme je l'ai dit en avant-propos, c'est simplement du fait qu'avant, les victimes avaient honte d'aller se présenter aux autorités. En général, une victime de cybercriminalité ou d'arnaque, très souvent, a honte d'aller dénoncer l'acte dont elle vient de subir préjudice. Mais de plus en plus, ça commence à entrer dans les mœurs des populations. Donc, on a connu un boom ces deux dernières années en termes de dénonciation et en termes également de plaintes.
À combien est évalué donc le préjudice en référence donc à ce pourcentage que vous relevez?
On a parlé de 5 milliards à peu près en termes de préjudice.
Alors, on se pose encore la question si cette action est menée, qu'il y a une certaine baisse, pourquoi ces cybercriminels réussissent toujours à gruger les populations?
C'est la mésinformation. Non seulement il y a une question de pauvreté au niveau de la population et de mésinformation. En termes de pourcentage, selon les chiffres que nous avons dévoilés, en termes de victimes, il y a beaucoup plus d'hommes. Les femmes, on parle d'une vingtaine de pourcentage à peu près en termes de victimes. Et les jeunes sont également visés. Mais les hommes majeurs sont beaucoup plus en avant en termes de pourcentage.
Est-ce à dire, c'est parce que de plus en plus la population est exposée aux technologies de l'information et de la communication qu'on note encore des cas d'infraction par le biais de l'Internet ou de tout ce qui est télécom?
Effectivement, vous avez raison. Vous savez, la technologie a un gros avantage parce qu'elle nous permet de faire des bons extraordinaires en termes de développement. Mais également, le désavantage, c'est que la vulgarisation vient toujours avec son lot de difficultés. Tout le monde a plus ou moins accès à Internet et à un smartphone. Donc, la connexion à Internet, aux différents réseaux sociaux aujourd'hui, n'est plus la chasse gardée d'une certaine catégorie de la population. Tout le monde y a accès également aujourd'hui. Et c'est l'objectif d'ailleurs du gouvernement de pouvoir vulgariser les TIC. Mais malheureusement, l'utilisation de cette technologie n'est pas toujours bien faite. Ça fait que du coup, toutes ces populations qui ont accès à ces outils, magnifiques d'ailleurs, elles sont exposées également à tout genre d'arnaques.
Alors, quels sont les portraits robots de ces cybercriminels que vous avez pu identifier? Qui sont-ils généralement?
On parle des jeunes âgés en moyenne de 24 ans qui ont eu une scolarité difficile ou qui sont déscolarisés autour de la classe de 3e. Et dans ce profil-là, on a 92% qui sont des hommes. 63% de ces cybercriminels ont entre 18 et 27 ans. 37% sont des élèves et étudiants. Et 19% sont sans emploi. Voilà à peu près le profil.
Justement, quelle est la nomenclature des infractions selon cette étude?
Le top 3, on a la fraude sur le porte-monnaie électronique, ce qu'on appelle communément le transfert d'argent, le mobile money. On a également l'usurpation d'identité et finalement l'atteinte à l'image, à l'honneur, donc les menaces, injures et harcèlement, diffamation via les réseaux sociaux.
Quel conseil donc aux utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour éviter des cas d'arnaque?
L'un des premiers conseils, c'est que on peut avoir une vie sur les réseaux sociaux, mais il faut savoir vivre caché. Ne jamais donner ses données sur les réseaux sociaux. Il faut toujours rester modéré, s'assurer de ne pas s'exposer via des photos un peu trop osées ou des vidéos, avoir une navigation responsable.
Kwame Philippe, merci.
Merci bien.
C'est ici que nous refermons cette édition, mais avant de nous séparer, le rappel des principaux titres. L'église orthodoxe de Côte d'Ivoire offre à 200 réfugiés vivant dans le pays des vivres et non-vivres. La cérémonie a eu lieu hier lundi 8 avril à la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés apatrides. La mauvaise santé des entreprises presse face aux coûts élevés de l'impression constatée ces derniers mois inquiète le président du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI. Pour lui, si rien n'est fait, les entreprises seront obligées de réduire leur personnel. À l'initiative de l'Organisation Ouest Africaine pour la Santé de la CDAO, les parlements des jeunes de la CDAO viennent de participer à un séminaire de renforcement de leurs capacités sur la thématique du dividende démographique à Cotonou au Bénin. On en parlait il y a un instant dans cette édition. En page internationale au Soudan, les manifestants maintiennent la pression, rassemblés depuis 3 jours devant le QG de l'armée hier lundi 8 avril. Ils demandaient aux militaires des négociations directes en vue de la formation d'un gouvernement de transition pour remplacer le président Omar El-Béchir.